Volume 2, Appendice, Section 4. Les théories de la rotation dans la science. Considérant que la cause finale est déclarée une chimère et que la grande cause première est reléguée dans la sphère de l'inconnu, ainsi que s'en plaint avec raison un révérend homme, le nombre des hypothèses qui ont été émises et qui constituent une vraie nébuleuse est très remarquable. L'étudiant profane reste perplexe et ne sait à laquelle des théories de la science exacte il doit croire. Nous donnons ci-dessous assez d'hypothèses pour satisfaire tous les goûts et toutes les capacités cérébrales. Toutes sont extraites d'un certain nombre d'ouvrages scientifiques. Hypothèse courante expliquant l'origine de la rotation. La rotation doit son origine, petit a, à une collision entre des masses nébuleuses errant sans but dans l'espace, ou à l'attraction dans les cas où il ne se produit aucun choc réel. Petit b, à l'action tangente de courants de matière nébuleuse, entre parenthèses dans le cas d'une nébuleuse amorphe, fermez la parenthèse, descendant de régions supérieures à des régions inférieures, ou simplement à l'action du centre de gravité de la masse. Note. Les termes supérieur et inférieur n'ayant rapport qu'à la position qu'occupe l'observateur dans l'espace, leur emploi dans le but de faire naître l'idée qu'ils représentent des réalités abstraites est nécessairement trompeur. Fin de note. Il existe en physique un principe fondamental en vertu duquel aucune rotation ne pourrait être déterminée dans une masse de ce genre par l'action de ses propres parties. Autant voudrait tenter de modifier la route d'un navire à vapeur en tirant sur son propre bastingage, fait remarquer le professeur Winchell dans son World Life. Hypothèse sur l'origine des planètes et des comètes. Petit a. Nous sommes redevables de la naissance des planètes. Premièrement à une explosion du Soleil, un enfantement de sa masse centrale, ou, deuxièmement, à une sorte de rupture des anneaux nébuleux. Note. Si tel est le cas, comment la science explique-t-elle le volume comparativement petit des planètes les plus proches du Soleil ? La théorie de l'agrégation météorique n'a pour résultat que de nous éloigner encore plus de la vérité que la conception nébulaire et ne possède même pas la qualité de cette dernière, c'est-à-dire son élément métaphysique. Fin de note. Petit b, les comètes sont étrangères au système planétaire. Il est indéniable que les comètes sont générées dans notre système solaire. Petit c, les étoiles fixes sont immobiles, dit une voix autorisée. Toutes les étoiles sont réellement animées d'un mouvement, répond une autre voix autorisée. Sans aucun doute, toutes les étoiles se meuvent. Petit d, depuis plus de 350 millions d'années, le lent et majestueux mouvement du Soleil autour de son axe n'a jamais cessé un seul instant. Petit e, Midler croit que notre Soleil a pour centre de son orbite Alcyone des Pléiades et emploie 180 millions d'années pour achever une seule révolution. Petit f, le Soleil n'existe que depuis 15 millions d'années et n'émettra de la chaleur que pendant encore 10 millions d'années. Note, conférence de Sir William Thomson sur la théorie dynamique latente en ce qui concerne l'origine probable, la somme totale de chaleur et la durée du Soleil. 1887. Fin de note. Il y a quelques années, ce savant éminent disait au public que le temps qu'il a fallu à la Terre pour se refroidir, depuis le début de la formation de sa croûte jusqu'à son état actuel, n'a pu dépasser 80 millions d'années. Note. Thomson était naturel philosophie. Bischoff est en désaccord avec Thomson même sur ces chiffres et calcule qu'il faudrait à la Terre 350 millions d'années pour se refroidir, en passant d'une température de 20 000 degrés à celle de 200 degrés centigrades. C'est aussi l'opinion de M. Helmholtz. Fin de note. Si l'âge de la Terre, pourvu d'une croûte solide, n'est que de 40 millions d'années, ou de la moitié de la période concédée, et si l'âge du Soleil n'est que de 15 millions d'années, devons-nous en conclure qu'à une certaine époque, la Terre était indépendante du Soleil ? Puisque l'âge respectif du Soleil, des planètes et de la Terre, tel qu'il est indiqué dans les diverses hypothèses scientifiques des astronomes et des physiciens, est donné, autre part, plus loin, nous en avons assez dit pour établir le désaccord qui règne entre les oracles de la science moderne. Que nous acceptions les 15 millions d'années de Sir William Thomson ou les 1 000 millions de M. Huxley pour l'évolution rotatoire de notre système solaire, le résultat sera toujours le suivant. À savoir que le fait d'admettre ce qu'enseigne la science au sujet de l'autorotation de corps célestes qui sont composés de matière inerte et n'en ont pas moins continué à se mouvoir sous l'impulsion de leur propre mouvement interne durant des millions d'années, équivaut à, petit a, un démenti évident donné à la loi physique fondamentale qui déclare qu'un corps animé d'un mouvement tend sans cesse à l'inertie, c'est-à-dire qu'il tend à se maintenir dans le même état de mouvement ou de repos, à moins qu'une force active supérieure ne le pousse à une action nouvelle. Petit b, à admettre une impulsion première qui aurait pour résultat un mouvement inaltérable au milieu de la résistance de l'éther que Newton a déclaré être incompatible avec ce mouvement. Petit c, à reconnaître la gravitation universelle qui, d'après ce que l'on nous enseigne, tend vers un centre suivant une chute rectiligne comme étant l'unique cause de la révolution de tout système solaire qui accomplit éternellement un double mouvement giratoire, chaque corps tournant autour de son axe et parcourant son orbite. Ou, suivant une autre version que l'on rencontre parfois, petit d, à admettre l'existence d'un aimant dans le Soleil ou à déclarer que cette révolution est due à une force magnétique qui agit, tout comme la gravitation, suivant une ligne droite et varie en raison inverse du carré des distances. Petit e, à dire que tout obéit à des lois invariables et immuables que l'on nous présente pourtant souvent comme variables. Par exemple, lorsque des planètes ou d'autres corps se livrent à des bizarreries bien connues, ou encore des comètes s'approchent ou s'éloignent du Soleil. Petit f, à postuler l'existence d'une force motrice toujours proportionnelle à la masse sur laquelle elle agit, mais indépendante de la nature spécifique de cette masse à laquelle elle est proportionnelle. Ce qui revient à dire, comme le fait Le Couturier, que, citation, sans cette force, indépendante de la dite masse et possédant une nature toute différente, cette masse, fût-elle aussi colossale que Saturne ou aussi petite que Cérès, tomberait toujours avec la même rapidité. Fin de citation. Masse qui, de plus, tire son poids du corps sur lequel elle pèse. De sorte que ni les observations de Laplace sur un fluide atmosphérique solaire qui s'étendrait au-delà de l'orbite des planètes, ni l'électricité de Le Couturier, ni la chaleur de Foucault, ni rien de tout cela ne peut jamais empêcher aucune des nombreuses hypothèses qui ont cours au sujet de l'origine et de la permanence de la rotation, de tourner dans un cercle vicieux, tout comme la théorie de la gravitation elle-même. Ce mystère est le lit de Procuste de la science physique. Si la matière est passive, comme on nous l'enseigne, le mouvement le plus simple ne saurait être attribué à une propriété essentielle de la matière, puisque l'on considère celle-ci simplement comme une masse inerte. Dans ces conditions, comment un mouvement aussi compliqué, un mouvement composé et multiple, harmonieux et équilibré, qui persiste durant des éternités comprenant des millions et des millions d'années, pourrait-il être simplement attribué à la propre force qui lui est inhérente, à moins que cette force ne soit une intelligence? Une volonté physique est une chose toute nouvelle. C'est une conception que les anciens n'auraient certes jamais accueillie. Entre parenthèses, depuis plus d'un siècle, on a aboli toute distinction entre les corps et les forces. La force, disent les physiciens, n'est que la propriété d'un corps en mouvement. La vie, qui est la propriété de nos organes animaux, n'est que le résultat de leur groupement moléculaire, répondent les physiologistes. Ainsi que l'enseigne Littré, citation, « Dans le sein de cet agrégat que l'on appelle une planète, se développent toutes les forces qui sont inhérentes à la matière. » C'est-à-dire que la matière possède en elle-même et par elle-même les forces qui lui sont propres, forces qui sont primaires et non secondaires. Ces forces sont les propriétés de pesanteur, d'électricité, de magnétisme terrestre, de vie. Toute planète peut développer la vie, comme la Terre par exemple, qui n'a pas toujours été habitée par une race humaine et qui porte, entre parenthèses, produit aujourd'hui des hommes. Fin de citation. Un astronome dit, citation, nous parlons de la pesanteur des corps célestes, mais puisqu'il est reconnu que le poids diminue proportionnellement à la distance du centre, il devient évident qu'à une certaine distance, ce poids doit forcément être réduit à zéro. S'il existait une attraction, il y aurait équilibre. Et comme l'école moderne n'admet ni un en bas ni un en haut dans l'espace universel, on se demande ce qui provoquerait la chute de la Terre, même s'il n'existait ni gravitation ni attraction. Fin de citation. J'imagine que le comte de Maistre avait raison de résoudre la question suivant ses propres idées théologiques. Il tranchait le nœud gordien en disant « Les astres tournent parce qu'une intelligence les fait tourner. Le système physique moderne de l'univers est physiquement impossible. » Herschel n'a-t-il pas dit la même chose lorsqu'il a fait observer qu'une volonté était nécessaire pour imprimer un mouvement circulaire et qu'il fallait une autre volonté pour le modérer? Cela explique comment une planète en retard est assez habile pour calculer son temps avec une précision qui lui permet d'arriver à la minute fixée. En effet, si la science réussit parfois avec une grande ingéniosité à expliquer quelques-uns de ses arrêts, de ses mouvements rétrogrades, de ses angles saillants hors des orbites, etc., nous n'en savons pas moins qu'il existe d'autres déviations très réelles et très considérables, d'après Herschel, qui ne peuvent être expliquées que par l'action irrégulière de ces planètes et par l'influence perturbatrice du Soleil. Nous apprenons toutefois qu'il existe, en dehors de ces petites et accidentelles perturbations, d'autres perturbations continuelles que l'on appelle séculaires, à cause de l'extrême lenteur avec laquelle l'irrégularité s'accentue et affecte les rapports du mouvement elliptique, et que ces perturbations peuvent être corrigées. Depuis Newton, qui trouvait que ce monde avait très souvent besoin d'être remis en état, jusqu'à Reynaud, tous disent la même chose. Ce dernier s'exprime ainsi dans son « Ciel et Terre ». Citation. « Les orbites décrites par les planètes sont loin d'être immuables et sont au contraire sujettes à de perpétuels changements dans leur position et leur forme. » Fin de citation. Il établit que la gravitation et les lois de la translation sont aussi négligentes qu'elles sont promptes à réparer leurs erreurs. Le reproche qu'on leur fait semble être le suivant. Citation. Ces orbites s'élargissent et se rétrécissent alternativement. Leur grand axe s'allonge et se raccourcit ou oscille en même temps de droite à gauche autour du Soleil, tandis que le plan même dans lequel ils sont placés s'élève et s'abaisse périodiquement, tout en pivotant sur lui-même avec une sorte de tremblement. » Fin de citation. À cela, de Mirville, qui croit à des ouvriers intelligents gouvernant invisiblement le système solaire, tout comme nous, fait observer avec beaucoup d'esprit. Citation. « Voilà, certes, un voyage qui comporte bien peu de rigueur mécanique, tout au plus pourrait-on le comparer à celui d'un bateau à vapeur, tiré de ci, de là, ballotté par les vagues, retardé ou accéléré, et dont chacun de ces obstacles pourrait empêcher indéfiniment l'arrivée, s'il n'y avait pas l'intelligence du pilote et des mécaniciens pour rattraper le temps perdu et réparer les avaries. » Fin de citation. La loi de l'apesanteur semble toutefois devenir une loi surannée dans le ciel étoilé. En tout cas, ces rebelles sidéraux à la longue chevelure que l'on appelle des comètes semblent être fort peu respectueux de la majesté de cette loi dont ils se moquent impudemment. Néanmoins, et bien qu'ils mettent en évidence, presque à tous égards, des phénomènes qui ne sont pas encore complètement compris, les météores et les comètes sont présentés par les adeptes de la science moderne comme obéissant aux mêmes lois et comme étant composés de la même matière que les soleils, les étoiles et les nébuleuses, et même que la Terre et ses habitants. C'est ce que l'on pourrait appeler admettre les choses de confiance et même avec une foi aveugle. Mais la science exacte ne doit pas être discutée et celui qui repousserait les hypothèses qu'imaginent ses disciples, la gravitation par exemple, serait considéré pour sa peine comme un sot ignorant. Pourtant, l'auteur que nous venons de citer nous raconte une singulière légende tirée des annales scientifiques. Citation. La comète de 1811 avait une queue mesurant 120 millions de miles de kilomètres de longueur et 25 millions de miles de diamètre. Dans sa partie la plus large, tandis que le diamètre du noyau central mesurait environ 128 000 miles, c'est-à-dire plus de 10 fois celui de la Terre. Il nous dit que, pour que des corps de cette dimension passent auprès de la Terre sans affecter le mouvement dont elle est animée ou sans changer d'une seule seconde la longueur de l'année, il faut que leur réelle substance soit raréfiée à un point inconcevable. Fin de citation. Il est évident qu'il faut qu'il en soit ainsi. Pourtant, citation. L'extrême raréfaction de la masse d'une comète est aussi établie par le phénomène que présente la queue, qui, lorsque la comète se rapproche du Soleil, est parfois projetée en quelques heures sur une longueur de 90 millions de miles. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que cette queue est projetée dans un sens contraire à la pesanteur par une force répulsive, probablement électrique, de sorte qu'elle est toujours dirigée du côté opposé au Soleil. Cependant, quelque raréfiée que doivent être la matière qui compose les comètes, elle obéit à la loi ordinaire de la pesanteur, et, soit que la comète parcourt une orbite comprise dans celui des planètes extérieures, soit qu'elle s'enfonce dans les abîmes de l'espace pour ne revenir qu'après des centaines d'années, son parcours est régi à chaque instant par la même force qui provoque la chute d'une pomme sur le sol. Fin de citation. La science est comme la femme de César, et ne doit pas être soupçonnée. C'est évident, mais il est pourtant permis de la critiquer respectueusement, et en tout cas on peut lui rappeler que la pomme est un fruit dangereux. Pour la seconde fois dans l'histoire de l'humanité, elle peut devenir la cause de la chute, et cette fois celle de la science exacte. Une comète dont la queue brave la loi de la pesanteur à la barbe du Soleil lui-même ne peut guère être considérée comme obéissant à cette loi. Dans une série d'ouvrages scientifiques sur l'astronomie et la théorie nébulaire, écrit entre 1865 et 1866, l'auteur de ce livre, qui est un modeste apprenti de la science, a relevé, dans l'espace de quelques heures, non moins de 39 hypothèses contradictoires destinées à expliquer le mouvement de rotation autogénéré et original des corps célestes. L'auteur n'est ni un astronome, ni un mathématicien, ni un savant, mais il a été obligé d'étudier ces erreurs dans le but de prendre la défense de l'occultisme en général, et chose encore plus importante, afin d'y puiser des arguments en faveur des enseignements occultes qui ont trait à l'astronomie et à la cosmologie. Les occultistes ont été menacés de châtiments terribles parce qu'ils se permettaient de mettre en doute les vérités scientifiques. Mais maintenant le courage leur revient. La science est moins à l'aise dans sa position inexpugnable qu'ils n'avaient été amenés à le croire, et plusieurs de ces forteresses sont bâties sur des sables très mouvants. Cet examen modeste et peu scientifique que nous en avons fait a donc été utile et certainement très instructif. Nous avons effectivement appris pas mal de choses en nous livrant surtout à une étude attentive des données astronomiques qui semblent devoir le plus probablement entrer en conflit avec nos croyances hétérodoxes et superstitieuses. Nous y avons découvert par exemple, en ce qui concerne la gravitation, le mouvement autour de l'axe et autour de l'orbite, que le mouvement synchrone ayant été surmonté durant les phases premières, cela suffisait pour donner naissance à un mouvement rotatoire persistant jusqu'à la fin du monde Vantara. Nous avons aussi appris, dans toutes les combinaisons de possibilités précitées qui ont trait à l'origine du mouvement de rotation et qui sont toujours fort compliquées, quelques-unes des causes auxquelles il peut être attribué, ainsi que quelques autres auxquelles il aurait dû être attribué et auxquelles on devrait l'attribuer, bien qu'on ne l'ait pas fait pour une raison quelconque. Entre autres choses, nous apprenons que la rotation originale peut avoir été provoquée avec la même facilité dans une masse ignée en fusion comme dans une masse ayant pour caractéristique une opacité glaciale. Que la gravitation est une loi que rien ne peut vaincre, mais qui n'en est pas moins vaincue à tout propos par les corps célestes ou terrestres les plus ordinaires, par exemple par les queues de comètes impudentes. Que nous sommes redevables de l'univers à la Sainte Trinité créatrice, appelée matière inerte, force insensible et hasard aveugle. La science ne sait rien au sujet de leur essence réelle et de leur nature, mais c'est un détail sans importance. Aussi nous dit-on que lorsqu'une masse de matière cosmique ou nébulaire, dont la nature est absolument inconnue et qui peut être en état de fusion, entre parenthèses Laplace, ou sombre et froide, entre parenthèses Thomson, car cette intervention de la chaleur est elle-même une pure hypothèse, entre parenthèses Faye, se décide à donner des preuves de son énergie mécanique sous forme de rotation, elle se comporte de la façon suivante. Ou bien elle éclate spontanément en conflagration, ou bien elle reste inerte, sombre et glacée, et ces deux états sont également capables de la lancer, sans cause adéquate, à travers l'espace pendant des millions d'années. Son mouvement peut être rétrograde ou direct, car on met en avant une centaine de raisons pour expliquer ces deux sortes de mouvements, dans un nombre à peu près égal d'hypothèses. En tout cas, elle prend rang dans la foule des étoiles, dont l'origine est du même genre miraculeux et spontané, car la théorie nébulaire ne prétend pas découvrir l'origine des choses, mais seulement une phase de l'histoire matérielle. Winchell Worldlife. Ces millions de soleils, de planètes et de satellites, composés de matière inerte, tourneront autour du firmament avec une symétrie impressionnante et majestueuse, mise en mouvement et dirigée, malgré leur inertie, uniquement par leur propre mouvement interne. Nous étonnerons-nous après cela si les savants mystiques, de pieux catholiques romains et même des astronomes aussi instruits que l'étaient Chobar et Godefroy, ont préféré la Kabbale et l'ancien système à l'interprétation moderne, triste et contradictoire de l'univers. Note, l'univers expliqué par la révélation et cosmogonie de la révélation. Voyez pourtant le deuxième mémoire de de Mirville. L'auteur, qui est un terrible ennemi de l'occultisme, a néanmoins écrit de grandes vérités. Fin de note. Le Zohar établit en tout cas une distinction entre le Ajachar, les forces de lumière, le Hachoseur, les lumières réfléchies, et les simples phénomènes d'extériorisation de leur type spirituel. La question de la pesanteur peut être maintenant mise de côté pour étudier d'autres hypothèses. Il est clair que la science ne sait rien au sujet des forces. Nous pouvons toutefois clore cette discussion en ayant encore recours à un homme de science, le professeur Jones, membre de l'Académie de médecine de Montpellier. Voici ce que dit ce savant homme en parlant des forces. Citation. Une cause, c'est ce qui agit essentiellement dans la généalogie des phénomènes, dans toute production comme dans toute modification. J'ai dit que l'activité, ou force, était invisible. La supposée matérielle et faisant partie des propriétés de la matière serait une hypothèse gratuite. Ramener toutes les causes à Dieu équivaudrait à se créer des embarras avec une hypothèse hostile à bien des vérités. Quant à parler d'une pluralité de forces procédant de la divinité et possédant des pouvoirs inhérents qui leur sont propres, cela n'est pas déraisonnable. Et je suis disposé à admettre l'existence de phénomènes produits par des agents intermédiaires appelés forces ou agents secondaires. La distinction des forces est le principe de la division des sciences. Autant de forces réelles et séparées, autant de sciences mères. Non, les forces ne sont ni des suppositions ni des abstractions, mais des réalités, et les seules réalités actives dont les attributs puissent être déterminés avec l'aide de l'observation directe et de l'induction. Note, voir sur la distinction des forces publiée dans les mémoires de l'Académie des sciences de Montpellier.